Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
En ce 31 mars 2018, Maître Serran vous salue. Mon cher Philippe, vous me connaissez, je suis le type le plus tolérant du monde. On peut pas me taxer de raciste, encore moins d'islamophobe, pas moi. Et pourtant, je me confesse, j'ai eu deux mauvaises pensées il y a quelques jours, mea culpa. Alors que Maître Serran était posé tranquillement dans une chicha, oui, je suis amateur de chicha. Ceux qui me connaissent vous diront même, la chicha pomme jack, c'est un goût très particulier. Mesdemoiselles, je fume très régulièrement dans le 5e arrondissement, hein, au 5, n'hésitez pas à me rendre visite, je ferai pas payer la consultation. Donc j'étais assis tranquillement à boire un café, à tirer quelques tafs, tout en lisant. Soudain, mon regard fut attiré par une demoiselle qui a poussé la porte de la chicha. Je te vois venir, auditeur, tu te dis, ouais, d'accord, la demoiselle, elle est belle, Maître Serran l'a remarqué. Non, pas du tout, mon pote. Elle était même moche. Non, sa particularité était tout autre. Elle était voilée. Alors, pas le petit voile, hein. Le voile. Alors, comme la chicha est près de la mosquée de Paris, je me suis dit que la demoiselle allait peut-être demander le chemin de la mosquée. Mais non, frère. Elle s'installe près d'un jeune homme. Donc, déjà, là, je suis surpris. Bon, tu me diras, peut-être que je raisonne comme un vieux con. On peut être voilé, prendre une chicha. En fait, je sais pas, faudra demander à l'imam. Elle s'assoit donc près d'un type qui semble la connaître. Elle prend le tuyau, tire une taffe. Déjà, là, je trouve la scène bizarre. Et puis, au bout de quelques minutes, je vois des petits bisous s'échanger entre ses deux faces de cul et la demoiselle qui porte quelques caresses sur la cuisse de son mec sans chercher la moindre discrétion. Nalchétan, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, je tiens à signaler que je joue pas le pudique, hein, mais quand même, je crois justement que quand tu portais le voile, tu avais par principe une certaine manière de te comporter, que tu étais la plus pudique du monde, peut-être. Eh bien non, mon cher Philippe, faut croire que non. Certaines personnes utilisent la religion à d'autres fins. Allez, petit filou. Alors, j'ai dû contacter Cédric Villani, vous connaissez, hein, médaille fixe de mathématiques, équivalent du prix Nobel, et nous avons mis au point une petite équation qui démontre que pour certaines femmes voilées qui manifestement se jouent de la religion, plus le voile est long, plus la culotte est courte. Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, appelez-nous au 01 53 48 3000 pour poser vos questions et missions sous le contrôle de notre mathématicien à nous, Monsieur Philippe Robichon, Beurre FM. C'est tout droit, c'est parti.
Il y a longtemps que j'ai perdu le contrôle, Maître Serran. Hein, je vous rassure. J'ai pas tout compris dans votre histoire, là.
Je pars du principe.
Oui.
Voilà, moi je pars du principe.
Déjà que Maître Serran a une chicha.
Mais si, j'y vais régulièrement. Oh, moi, là, c'est déjà, oui, c'est un truc que j'aime bien. Ça me détend. Mais bon.
Ouais.
Mais je pars du principe. Alors peut-être que je me trompe. Qu'à partir du moment où on se balade avec son hijab,
c'était pas la caméra cachée.
Ah non, je vous le confirme. Ouais, moi je veux bien qu'on fasse semblant devant ses parents de jouer les pudiques et de sortir avec son hijab et d'enlever ensuite sa culotte une fois qu'on est dehors. Mais moi ça me dérange. Voilà, moi c'est des trucs qui me dérangent. Donc soit on joue les religieux et je respecte, mais ce que je respecte pas, ce sont ceux qui se jouent de la religion. Et ça me dérange. Et d'ailleurs, je me suis dit, s'ils continuent de se faire des bisous, je vais effectivement faire le vieux con et leur dire, vous êtes gentils, mais il faut peut-être sortir. Et ils ont arrêté. Je crois qu'ils ont simplement vu mon regard pas très sympathique.
Patibulaire, mais presque, Maître Serran.
Écoutez, comme on dit.
C'est en grève, Maître Serran, hier ou pas?
Alors, hier, oui, effectivement, il faut savoir que...
Est-ce que vous voulez qu'on en parle?
Bah, il faut en
est-ce
parler.
Est-ce que vous étiez gréviste, Maître Serran?
En... Alors, moi, j'étais pas gréviste, hein, par principe. Moi, je considère que notre activité... À bientôt, mes amis. Par principe, moi, je considère donc que la grève n'est pas pour moi. Mais c'est comme ça pour autant. Pour autant...
Il faut expliquer, parce qu'il va y avoir plusieurs mouvements de grève. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, des mouvements de grève.
En ce moment, oui.
Mais qui concernent les avocats, donc tout le mois d'avril.
Alors, les avocats, mais pas seulement. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Les magistrats et les greffiers. C'est-à-dire, ça fait quand même partie de ces rares mouvements où tout le corps judiciaire se retrouve. Il n'y a pas une opposition entre les greffiers, les magistrats et les avocats. Donc, tout le monde s'y retrouve. Donc, on annonce une méga réforme de la justice. Alors, d'aucuns pourraient se dire, oui, d'accord, les avocats font grève parce qu'ils plaident exclusivement en leur faveur. Il faut savoir que ça va quand même beaucoup plus loin. On assiste quand même à une sorte de décomposition de cette justice. Et ce qui peut même sembler très curieux, une sorte de privatisation de la justice. Alors pourquoi j'ai une sorte...
privatisation d'un peu tout ce qu'il y a en France, hein, on peut pas dire, il y a pas que la justice qui est concernée. Là, on a l'impression quand même que c'est la grande braderie là. Hein.
C'est la grande braderie, sauf que On a encore une fois des domaines régaliens, l'armée, la justice, la police, ce sont des domaines où on se dit qu'a priori, ça devrait être accompli exclusivement par l'État, sauf que, et on l'a déjà vu avec le système des amendes maintenant, puisque ce sont des sociétés privées, en tout cas dans la plupart des grandes villes, donc qui gèrent ça, bah pour la justice, ça va être un peu pareil. Et la difficulté, c'est qu'on nous met ça derrière une sorte de modernisation de la justice, une sorte de numérisation à outrance de la justice, dans l'absolu. Ça pourrait être intéressant, sauf que il faut savoir que déjà depuis quelques années, les avocats, notamment pénalistes, constate que les clients, nos clients, en tout cas en matière pénale, sont de moins en moins convoqués physiquement, c'est-à-dire qu'on a un échange entre les magistrats et nos clients, donc par visioconférence. Donc déjà ça déshumanise un peu la procédure, et en matière pénale, c'est quand même important que l'avocat puisisse voir directement son client. Alors j'allais presque dire le toucher, mais c'est-à-dire palper un peu, voir un peu ses impressions. Donc on a déjà cet aspect-là. On a aussi beaucoup aujourd'hui, mais ça fait 20 ans que j'exerce, donc j'ai vu un peu l'évolution. On a beaucoup de procédures où vous avez le magistrat qui, vous voyez par exemple en matière de divorce, qui va voir votre client une fois. Donc dans le cadre de la première procédure, on appelle ça l'ordonnance de non-conciliation, et ensuite c'est ce qu'on appelle des audiences de mise en état. C'est-à-dire qu'auparavant, l'avocat se déplaçait. Aujourd'hui, l'avocat n'a quasiment plus à se déplacer. Il fait ça via Internet. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, voici mes écritures, voici mes pièces. Donc, tout ça devient encore une fois complètement dématérialisé. Et c'est manifestement pas suffisant. Donc, on essaie aussi de, là encore une fois, sous couvert de modernité, donc de simplifier les procédures. Alors toutes les procédures, la procédure civile, la procédure pénale, il va y avoir une obligation systématique, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, votre voisin, votre employeur ou autre, enfin peu importe, avec une société de crédit, il va y avoir une obligation quasi systématique d'une tentative de médiation. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si véritablement, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais elle est significative, si ça vaut le coup, et là dans tous les sens du terme, d'aller plus loin, donc il va y avoir cette obligation de médiation. Et puis si la médiation n'aboutit pas, vous pourrez éventuellement aller au-delà, et si la médiation aboutit, ben vous allez vous arrêter, sauf que on constate quoi ? On constate, mais moi je l'ai même vu en matière prud'homale, c'est-à-dire que en matière prud'homale, vous avez d'abord une première rencontre avec entre le salarié et la société, et très souvent les conseillers prud'homaux, alors ils vont, vous allez me dire c'est un peu dans leur mission, mais parfois on vous force un peu la main, vont absolument essayer de trouver donc un accord. Qu'ils essaient de trouver un accord, oui, ça me dérange pas.
Une transaction.
Voilà. Quoi. Alors ça me dérange pas.
Ce qui paraît pas fou non plus.
Complètement. Mais qu'ils essaient parfois de, et on voit bien, il y a une manière d'insister. C'est-à-dire qu'on vous dit presque, faites attention, si vous allez jusqu'au bout, vous n'êtes pas certain d'aboutir. Parfois c'est vrai, parfois c'est exagéré. Donc on cherche, entre guillemets, à trancher quand même une branche importante de cette justice, et donc à faire en sorte que si il y a une obligation de médiation, voire parfois de transaction, c'est surtout et avant tout, pas forcément pour fluidifier la justice, comme on essaie de nous le faire entendre, mais c'est surtout et avant tout pour éviter, alors on nous dit souvent d'engorger les tribunaux, pour éviter de se retrouver devant un magistrat. Sauf que il y a une autre manière de désengorger les tribunaux, c'est évidemment peut-être d'embaucher un peu plus de magistrats. Donc on joue là-dessus. Alors c'est quand même assez terrifiant. Il faut savoir qu'on va, si on va dans ce sens-là, dans le cadre d'une, on est dans le cadre d'une justice expéditive, c'est-à-dire que les magistrats n'auront plus le temps de voir ce qui s'appelle en droit l'intuitu personae. C'est-à-dire que la justice est avant tout humaine. La justice, c'est pas que ouais. Des logiciels, c'est pas que des ordinateurs, c'est pas des décisions rendues à la va-vite ou des décisions qui vous seront rendues alors que le juge ne vous aura jamais rencontré physiquement. Ça pose aussi une véritable difficulté. Mais moi, ce qui me dérange, mais vous me direz, c'est pas spécifique au barreau où je suis inscrit, c'est que hier il y a eu une réunion. Alors d'abord, c'est ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y avait très peu de confrères. Il faut savoir que le barreau de Bobigny tourne autour d'à peu près 600 personnes. Il y avait une centaine de personnes à l'Assemblée générale, et sur la centaine de personnes, il y en a une soixantaine donc qui ont décidé de voter la grève. Alors voter la grève, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà tous les dossiers au titre de l'aide juridictionnelle, tous ces dossiers-là vont être suspendus. C'est-à-dire que les avocats vont indiquer aux magistrats, si on est convoqué mardi, mercredi, dire écoutez, nous sommes dans le cadre d'un mouvement de grève, donc je vous demande le renvoi. Donc ça va être a priori accordé, mais vous comprenez bien que c'est toujours le justiciable qui trinque, puisque pour avoir une date d'audience, faut attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est vrai que quand on demande le renvoi, ça fait pas forcément plaisir au justiciable, au client lui-même. Ensuite, on a les dossiers qui sont hors aide juridictionnelle. Et là, il faut comprendre aussi, donc il y a eu un débat hier, que certains confrères ont quand même envie de plaider leur dossier et pas de solliciter le renvoi, pour la simple et bonne raison que quand le client vous a réglé, il vous est difficile de dire, bah écoutez, il y a un mouvement de grève, je suis désolé, on va demander le renvoi. Encore une fois, ce serait pas dans l'intérêt de votre client. Sauf que on a quand même eu hier quelques confrères, alors j'ai failli utiliser le terme extrémiste, mais évidemment exagéré, mais bon, des gens affiliés quasi à la France insoumise, donc avec la modération qu'on connaît, qui envisageaient éventuellement peut-être d'aller perturber les audiences où les avocats qui sont pas désignés au titre de l'aide juridictionnelle, donc qui sont payés par les clients, où ces avocats pourraient être empêchés de prendre la parole. Alors ça s'est déjà vu, notamment, en tout cas à Bobigny, il y a quelques années, dans le cadre d'un autre mouvement. Et donc c'est ce genre d'idée qui en tout cas transparaissait hier. Alors, qui est ce mouvement que les magistrats, que les greffiers, que les avocats s'alarment de la situation? Je l'entends et je le comprends. Ce qui me fait un peu peur, c'est que quand on écoute certains discours, on a l'impression que le droit serait, j'allais dire, hors évolution. On voit bien qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la profession a changé. On voit bien que, et l'avocat que je suis, on a recours à des logiciels pour chercher des anciennes décisions, donc pour plonger dans la jurisprudence, pour la doctrine. Alors tout ça sont des instruments qui évidemment nous aident. Donc je crois, comme dirait l'autre, n'ayez pas peur. Pour autant, ce qui est inquiétant dans cette réforme, c'est qu'effectivement, on cherche de moins en moins à ce qui est, encore une fois, un contact physique entre le justiciable et les magistrats. Et si on continue d'aller dans ce sens-là, mon cher Philippe, eh ben, d'ici quelques temps, vous n'aurez pas forcément besoin de l'avocat que je suis devant ce micro ou peut-être dans d'autres circonstances. Eh ben voilà, ne serait-ce que pour ça, moi je dis, il faut tous descendre dans la rue. Donc c'est toute l'inquiétude.
Alors vous êtes gonflé, vous faites pas grève et vous voulez qu'on descende dans la rue.
Pourquoi je fais pas grève.
Vous votez pas, vous faites pas grève et après vous voulez qu'on vous défende.
Non mais je suis le citoyen le plus mauvais du monde. Voilà, ça, je vous le confirme.
En tout cas, moi je veux dire un truc, c'est que le low cost, ça finit toujours par coûter plus cher. C'est pas vrai. Le low cost finit toujours par coûter cher.
Mais bien sûr.
À l'usager.
C'est bien sûr. Mais
ça, c'est une règle.
Ouais, mais la difficulté, c'est que l'usager.
Vous croyez que vous faites des économies,
exactement.
Mais c'est pas vrai.
L'usager n'a manifestement pas compris parce que le low cost, on le voit dans déjà plusieurs domaines. Aujourd'hui, ça arrive au sein de la justice. Dans un premier temps, on pourrait se dire, OK, tant mieux.
Oui.
Il y a plein de procédures.
Dans un premier temps.
Voilà, sans avocat et autres. Et, au bout d'un moment, quand on se rend compte de sa bêtise, eh ben c'est trop tard. Donc c'est ça qui est un peu extraordinaire, c'est tout le temps le même mécanisme, quel que soit le domaine, et de toute manière, ouais, je me fais pas d'illusions, ça finira par aboutir, donc je baisse pas les bras non plus, mais encore une fois, je me fais pas d'illusions, mais effectivement, si Dieu nous prête vie, on en reparlera peut-être dans quelques années, et on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une difficulté, et que cette déshumanisation de la justice pose aujourd'hui problème, mais ce sera trop tard.
Maître Serran a poussé son cri. Alors, profitez qu'il soit encore là. En vrai, il va vous répondre à vos questions. Hein. Mais bientôt, ce sera des logiciels, des machines, des robots. Mr. Robot qui répondra à vos questions. 01 53 48 3000. C'est tout droit jusqu'à midi sur Beurre FM.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Beurre FM, 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître Serran qui répond à vos questions. Vous composez le standard, le numéro du standard de C'est tout droit, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Alors, Maître Serran, je vous propose d'accueillir Shafika. Bienvenue, Shafika. Alors, Shafika.
Bonjour, Maître.
Bonjour, Shafika.
Oui, bonjour. Excusez-moi de vous appeler, je vous appelle.
Ne vous excusez pas, ça nous fait plaisir.
Oui, mais
on vous écoute.
C'est gentil. Oui, c'est pour un bien que j'ai acheté moi et mon mari. C'est un bien immobilier, c'est Après, c'est que le problème, on a fait une promesse d'embauche. On a signé tout ça.
Alors, une promesse de vente, peut-être, non?
Une promesse de vente. Oui,
de vente, d'accord.
Oui, une promesse de vente. Mais on habite toujours à la maison là. Mais c'est que le problème, le notaire, il jusqu'à maintenant, il ne nous a pas donné acte notarié authentique broché.
D'accord, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle pour l'instant, pour que les auditeurs comprennent, la promesse de vente, c'est une sorte de pré-contrat qu'on signe entre le vendeur et l'acheteur.
Oui.
On signe ça pour dire, moi, vendeur, je mets mon bien à votre disposition pendant un certain laps de temps. Oui. Et celui qui signe le contrat dit, moi, je vais m'engager à l'acheter à condition de, par exemple, s'il a demandé des prêts, à condition que les prêts soient accordés.
Oui,
est-ce qu'on est en train de parler de ça? D'accord, donc ça a
même
été signé.
La banque, tout est signé.
D'accord.
La banque les a acceptés jusqu'à maintenant. On est en train de payer les crédits à la banque.
D'accord, donc ce contrat a été, alors le pré-contrat, on va appeler ça comme ça, a été signé, donc la promesse de vente.
Oui.
Le contrat définitif de vente a été signé chez le notaire ou pas encore?
Oui.
Bon, ça c'est fait.
Le notaire. Oui, oui, ça a été fait.
Bon.
Mais le problème, mon mari, quand il appelle le notaire pour avoir l'acte notarié identique, il ne nous répond même pas au téléphone. Même pour avoir un rendez-vous, il ne nous a même pas rappelé pour avoir un rendez-vous.
Oh, c'est assez bon. Alors après, comme dire, je sais pas s'il est souffrant ou s'il a des excuses sérieuses, mais en règle générale, je dis pas que tous les notaires sont carrés, mais en règle générale, en la matière, à partir du moment où la promesse a été signée, à partir du moment où vous avez signé l'acte authentique, c'est-à-dire qui formalise définitivement la vente.
Oui.
Donc c'est vrai qu'il faut un certain délai pour que ce document soit ensuite établi, formalisé, rédigé par le notaire, mais ça prend pas des semaines et des semaines. Quand vous dites on l'appelle, il répond pas, ça fait combien de temps?
Ça fait plus de 3 mois, mais nous on habite la maison depuis début juillet. Jusqu'à maintenant, on a
de lui. Là ça me semble un peu long, il faudrait peut-être. Alors d'abord, vous avez été sur place ou pas pour voir d'abord s'il est toujours là-bas et vivant?
Parti il y a 2 semaines de ça sur place.
Ouais.
La secrétaire quand il lui a montré à la secrétaire la promesse là de vente, elle lui a dit non, c'est pas ça l'acte notarié. En même temps, le notaire, il a dit à mon mari, c'est ça l'acte de notarié. Et quand il s'est renseigné, mon mari, c'était pas celui-là. Après, quand il est parti sur place, la secrétaire, elle lui a dit, il est pas là, il est en vacances et tout ça. Mais depuis ce jour-là, on n'a pas de réponse de lui.
Bon, il faudrait quand même, parce que même si monsieur s'est présenté physiquement, il faudrait quand même qu'il y ait une trace, entre guillemets, de son passage. Donc n'hésitez pas à envoyer à ce notaire un recommandé AR, en reprenant simplement ce qui se dit, c'est-à-dire à savoir que il y a une promesse qui a été signée à telle date et que la vente définitive a été formalisée à telle autre date et que depuis, si vous me dites ça fait 3 mois, ça me semble particulièrement long, que depuis il y a pas eu de retour. Donc en règle générale, encore une fois, je vois pas sincèrement l'intérêt qu'aurait ce notaire à pinailler ou à vous embêter. Donc, mais ce serait peut-être bien de lui faire une piqûre de rappel. Donc, un petit recommandé AR, simplement pour, encore une fois, résumer ce que vous êtes en train de me dire.
Oui.
Et si, on va dire, allez, dans les 15 jours, il n'y a pas eu de retour de sa part, bon, n'hésitez pas à nous repasser un petit coup de fil et puis on avisera éventuellement à partir de ce moment-là.
D'accord. Est-ce que je peux vous envoyer ça sur votre boîte email,
bien sûr,
s'il vous plaît?
Bien sûr.
D'accord.
C'est gentiment de demander. Vous avez l'adresse?
Voilà ce que j'allais vous dire. Oui. Vous avez l'adresse?
Oui, j'en ai la boîte email de Maître Serran.
C'est ça, maître.serran@gmail.com.
D'accord.
Eh ben, écoutez, impeccable, n'hésitez pas.
D'accord, merci, c'est gentil.
Merci à vous.
Au revoir et bonne journée.
Merci pour votre appel, Shafika. Karim. Karim est au 01 53 48 3000. Bienvenue, Karim.
Oui, bonjour, Philippe. Bonjour, Maître.
Bonjour, Karim.
Bonjour. En fait, ma question concernant une achat, j'ai acheté un produit sur un site internet, c'est les 2 sites connus, je ne vais pas citer les sites. Donc,
Si c'est pas bien, vous pouvez citer.
Ouais.
Si vraiment vous êtes fait avoir, oui.
Ouais, voilà, je pose ma question. Après, vous me dites est-ce que je me suis fait avoir ou non.
Prudent.
Donc Non, j'imagine, oui, mais bon. En fait, j'ai acheté un téléphone, c'est un iPhone 6S Plus. Et ça fait depuis le mois de juin 2017, et depuis que je l'ai acheté, enfin le, deux jours après, je découvre un problème. J'ai contacté le vendeur, j'ai effectué toutes les démarches. Bon, il m'a dit que voilà, moi, il faut m'envoyer ça, il faut m'envoyer ça. J'ai envoyé tous les documents. Et en sachant, la dernière fois, j'ai parti chez Apple, quand ils ont mis le téléphone, c'est-à-dire ils ont regardé le téléphone, ils ont trouvé que, c'est-à-dire, moi, je l'ai acheté tout neuf. Hein.
Ah, vous l'avez acheté à un particulier ou à un magasin?
Enfin, voilà, je l'ai acheté sur le site Cdiscount, sur le site Cdiscount.
D'accord, enfin voilà, c'est donc, pas un particulier, vous l'avez acheté à un magasin, non. On est d'accord, donc
oui,
Cdiscount.
C'est un magasin, d'accord. C'est avec du facture. Avec
bon, bah jusque-là, tout donc, est carré.
Voilà, donc le téléphone, il est tout neuf, on va dire, enfin, je l'ai acheté tout neuf, comme j'ai les preuves et tout, et comme il y avait ce problème-là, donc après j'ai parti chez Apple pour le réparer, et comme ils ont mis, enfin, quand j'ai parti chez Apple, ils ont découvert que ce téléphone, il était déjà utilisé depuis le 22 novembre 2015.
D'accord.
Moi, je l'ai acheté en juin 2017. Comme moi,
c'est ah oui. 19. Mais alors, voilà. Alors juste pour être sûr, parce qu'on sait qu'il y a des téléphones qu'on appelle reconditionnés. Voilà, qui sont vendus. C'est pas du tout ça. Enfin, reconditionné, c'est que ça a déjà été utilisé. On change des pièces. Enfin voilà, on va le maquiller et le rendre beau. C'est pas un téléphone reconditionné que vous avez acheté, c'est un téléphone tout neuf.
Oui, c'est marqué.
C'est problématique, ça.
Tout neuf, voilà.
D'accord.
C'est un téléphone tout neuf, ça coûte 700 euros, je l'ai acheté tout neuf. Voilà, donc j'ai la preuve, la facture, la preuve d'achat,
bon,
la date d'achat,
j'ai tout. Bon, donc après, Apple dit que ce téléphone est donc manifestement pas tout neuf.
Ah, ils ont chez Apple, ils m'ont donné tout, enfin une preuve. Qu'on croit que ce téléphone, il était déjà sa première, ils m'ont dit, on voit sa première utilisation de novembre 2015. Et ce téléphone, il vient de Hong Kong. Il est pas assuré en Europe. C'est-à-dire, il porte pas la garantie européenne. Tout ça. Et pour moi, j'ai la garantie. Normalement, j'ai la garantie. J'ai tout.
Bien sûr.
Voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, là, j'ai envoyé, ça fait trois jours de là, j'ai envoyé la preuve, donc voilà ce qu'il y a, Maintenant, j'attends la réponse, mais je voulais savoir, est-ce que, par exemple, dans le cas où on ne répond pas correctement, est-ce que ça a retourné contre lui?
Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, comme on dit, tromperie sur la marchandise, vous êtes en tout cas censé acheter un téléphone tout neuf, jamais utilisé, et on est en train de vous expliquer que c'est un téléphone qui, a priori, est reconditionné et dont en plus la garantie ne fonctionnera même pas sur le territoire français. Oui, ça pose effectivement difficulté.
Mais moi j'ai une question. Vous l'avez acheté quand votre téléphone, Karim?
Le téléphone, il est acheté en juin 2017.
Donc juin 2017. Est-ce qu'en règle, alors donc vous l'avez acheté sur un site internet, quelles sont les règles pour justement entamer une procédure sur quand on achète quelque chose sur internet, Maître Serran? Est-ce qu'il y a pas une question de délai?
Si, alors non, il y a une question de délai pour ce qu'on appelle la rétractation.
D'accord.
Que vous achetez pour dire voilà, pour dire bon bah pour des raisons X ou Y, ça ne m'intéresse plus, vous pouvez le rendre. Passer ce délai, ensuite il y a les règles classiques en la matière, c'est-à-dire que si vous considérez qu'effectivement c'est un
vice caché, ça.
C'est plus qu'un vice caché. J'allais presque dire si on doit qualifier ça pénalement, on est dans l'abus de confiance, éventuellement l'escroquerie. Donc là, oui, c'est au-delà d'un vice caché. Donc si la société Apple vous a fourni un document qui entre guillemets indique que ce téléphone est évidemment pas tout neuf et a déjà été utilisé, donc oui, a priori. Cette grande enseigne devrait pouvoir, outre vous présenter des excuses, vous rembourser de l'intégralité de ce téléphone. Maintenant, vous me dites, ça fait quoi, trois jours que vous leur avez envoyé, c'est ça?
Ça fait trois. De toute façon, moi, j'ai les preuves, j'ai tout.
Il n'y a pas. Non, mais on n'est pas en train de remettre en cause ce que vous dites.
Ce que je voulais dire, c'est-à-dire, moi, depuis que je l'ai acheté, deux jours après, j'ai tous les messages, chaque 15 jours, 20 jours, j'envoie un message. C'est-à-dire qu'on croit que le téléphone, il a toujours son problème. J'ai tous les preuves de
Mais d'ailleurs, quand les échanges de messages donnent quoi dans un premier temps, il vous dit quoi cette grande enseigne vous répond quoi monsieur, on va vous le rembourser, on vous l'échange?
Non, il ne voulait pas. Voilà, il voulait qu'il le répare. Il voulait qu'il le répare. Mais quand je l'ai envoyé, il m'a donné une adresse. Enfin, tout est flou. Je n'ai rien compris dans cette histoire. En fait, il m'a envoyé une adresse. J'ai envoyé ce téléphone, heureusement je l'ai envoyé par la voie de poste, je l'ai envoyé et le téléphone il s'est traîné pendant 2 mois. Après, quand j'ai regardé sur Internet l'adresse, ce qu'il m'a donné, ça n'existe même pas en fait. C'est un champ, on voit rien du tout. Après, le téléphone, il est retourné vers moi. Enfin, il n'y a pas de suivi derrière. Et depuis là, c'est-à-dire, c'est pour ça que je venais pas partir chez Apple pour le réparer moi-même. Et c'est là que je découvre que ce téléphone, en fait, il n'est pas tout
neuf. Non, mais voilà, vous avez raison. Voilà. De toute manière, c'est pas à vous de
faire. C'est pas votre charge.
Voilà, de faire ces réparations. Donc, voilà. Jusqu'à présent, tout est carré de votre côté. Vous leur avez envoyé. Bon, je vous dis, il faut attendre un petit délai de 15 jours si effectivement, dans ce délai, vous n'avez pas de retour du service consommation de ce magasin. Vous savez, la seule possibilité, c'est soit ils vous remboursent ou ils vous redonnent un téléphone, et cette fois-ci pas reconditionné, mais un téléphone tout neuf. Mais il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas à négocier ou à discuter ou à dire, écoutez, est-ce que vous voulez un bon d'achat pour autre chose. Donc c'est un remboursement intégral ou c'est on le remplace par un autre téléphone. Et si ça va pas dans ce sens-là, ensuite faudra éventuellement penser peut-être à aller un peu plus loin. Je vous dis, alors, sur un plan purement civil, il n'y a pas de difficulté, mais même sur un plan pénal, ça pose un problème. Il y a un contrat entre vous, on est sur l'abus de confiance. Je vais pas utiliser le terme d'escroquerie, mais enfin voilà, ça y ressemble un peu. Donc attendez, délai de 15 jours, et je vous dis, bon, à partir de là, c'est le délai normal ou, en principe, cette enseigne devrait vous répondre. Après, n'hésitez pas à appeler pour dire quelle est la nature de la réponse. Si on vous dit, bah non, monsieur, c'est comme ça, bon, il faudra aller un peu plus loin.
Ah non, mais moi, j'attends juste qu'ils m'appellent. Normalement, ils vont m'appeler dans les 2 jours qui viennent. Moi, je dis, voilà, que j'ai consulté mon avocat, je l'ai expliqué tout mon cas. Voilà, et voilà ce qu'ils m'ont dit, que normalement, soit vont me rembourser l'intégralité, soit m'envoyer un téléphone tout neuf.
Voilà, c'est exactement ça. Il y a pas 1000 options, hein. Il y en a que 2. Donc, il propose aucune de ces 2 options, vous pourrez dans ce cas-là continuer votre procédure.
Voilà, Karim, vous nous tenez au courant de la nature de la réponse qu'ils vont vous apporter, satisfaisante ou pas. Maître Serran répondra à d'autres questions dans un instant. Je vous rappelle le numéro de téléphone de C'est Tout Droit, 01 53 48 3000. Et si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous pouvez envoyer un mail à Maître Serran à l'adresse qu'il vous communique immédiatement.
Absolument, maître.serran, serhane@gmail.com.
C'est Tout Droit, c'est jusqu'à midi sur Beurre FM.
11h midi, C'est Tout Droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. FM, 11h midi, C'est Tout Droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître, pourquoi je t'appelle Maître?
Je sais pas, c'est n'importe quoi.
Vous êtes simplement Maître Serran, répond à vos questions 01 53 48 3000. C'est Mohamed du 94 qui est avec vous et qui vous attend au standard, Maître Serran. Mohamed, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue, Mohamed.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Mme Serran. Alors.
Bonjour, Mohamed.
Alors, mon problème, ça concerne un employeur. J'avais suivi une formation en 2016.
Oui.
Et à l'issue de cette formation, juillet 2016, j'ai passé un stage chez un employeur.
Ouais.
Alors, c'était prévu normalement un stage de 1 mois, mais de toute façon, moi, j'ai passé plus d'un mois, donc 1 mois et 15 jours, mais c'est pas grave, donc c'était pas ça le problème. Après, pendant le stage, j'ai travaillé sur 3 offres de projets, et vers le mois de décembre, ça a donné quelque chose, donc c'était concluant, et donc il a eu 3 projets. Et du coup, il m'a rappelé en mois de décembre parce que j'avais fini la formation. Il m'a rappelé pour travailler.
D'accord.
J'ai commencé le mois de décembre 2016.
Ouais.
J'ai travaillé décembre, janvier 2017 et février 2017. Alors, ce patron-là, donc j'ai travaillé comme chargé d'affaires dans les bureaux. J'avais un confrère à moi, donc on était 2 sur les bureaux. Donc moi j'étais le chargé d'affaires, tout ce qui est technique, et mon collègue c'était tout ce qui est chiffrage. Et pendant les 2 mois et demi, J'ai vu le patron trois fois et à chaque fois, j'ai sollicité pour un contrat et pour les bulletins de paie. Or, à chaque fois, il suivait les conversations sous prétexte il est occupé d'un truc urgent, voilà. Et donc, il part. Au mi-février, j'ai eu un clash avec ce patron. Je pourrais pas comme ça. Il me faut un contrat, il me faut un bulletin, des bulletins de paie et tout. Et du coup, il a pas aimé donc le clash et tout. Moi, je suis pas en train de rouler et tout. Voilà, il faut patienter, il faut voilà. Et du coup, moi, je suis parti.
D'accord. Alors, vous me dites que vous aviez pas les bulletins de salaire, mais le salaire était quand même versé ou pas?
Non.
Ah, même pas?
Ah non.
D'accord.
Ni en espèces, ni par chèque, ni rien.
D'accord. Et donc, vous avez travaillé, combien de mois comme ça?
Deux mois et demi.
D'accord.
Deux mois et demi. Alors, pendant le travail, donc, j'ai eu le contact avec des fournisseurs, avec des entreprises. Il y a eu un échange d'emails. J'ai même signé des documents officiels parce que moi, j'occupais de tout ce qui est technique. Donc, j'ai même paraffé des documents et avec le cachet de l'entreprise et tout. Et quand il y a eu ça, donc moi, par la suite, j'ai sollicité ces entreprises. Ils m'ont renvoyé de leur archive par leur email professionnel. Ils m'ont renvoyé des documents qui ont été signés et avec le cachet de l'entreprise.
Voilà, c'est-à-dire que vous avez des documents qui prouvent que vous êtes bien intervenu pour cette société. On est d'accord là-dessus?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et encore, j'ai contacté des commerciaux. Ils ont témoigné par email avec leur email professionnel de l'entreprise là où ils travaillent. On reconnaît d'avoir travaillé avec tel monsieur.
D'accord.
Sur tel projet, donc ils reconnaissent.
Jusque-là, tout est carré. Ensuite, vous en avez tiré quoi comme conséquence au moment où on se parle?
Alors, j'étais au prud'homme.
Voilà.
Avant d'aller au prud'homme, donc j'ai avisé l'inspection de travail.
Ouais.
Et l'inspection de travail, ils m'ont donné une procédure, donc d'envoyer des recommandés et tout. J'ai suivi la procédure en réclamant mes salaires, un contrat et tout. Et du coup, donc l'inspection de travail, ils ont fait un saut comme ça dans l'entreprise. Ils n'ont pas trouvé le patron. Par contre, ils ont trouvé mon collègue. Et du coup, le collègue, il a reconnu que j'ai travaillé dans l'entreprise de telle date à telle date.
D'accord.
Après, quand ils ont convoqué le patron dans les locaux de l'inspection de travail, il a nié. Il a dit non, il n'a pas travaillé chez moi.
D'accord, donc la position du patron étant de dire qu'il vous connaît pas et que j'avais jamais travaillé avec lui.
Oui, c'est ça. Bon. Alors, j'ai eu un procès verbal de l'inspection de travail. Ils me l'ont envoyé par courrier. Le procès verbal, il indique que tel monsieur, il parlait de mon collègue. Ils ont cité le nom et tout.
Ouais.
Donc, il a reconnu que j'ai travaillé dans l'entreprise de telle date à telle date. Et le patron, il reconnaît juste le stage de mois de juillet, c'est tout.
D'accord. Donc ensuite, vous avez saisi les prud'hommes.
Prud'hommes. Alors, la séance de prud'hommes s'est passée en juin 2017.
Vous les avez saisis en référé, monsieur, en urgence?
En conciliation.
D'accord. Ah, c'est surprenant. À partir du moment où vous me dites que vous aviez quand même des éléments qui permettent, en tout cas des témoignages, qui permettent d'établir que vous avez bien travaillé pour ce type-là, a priori, rien vous aurait interdit en référé. Donc, c'est une procédure d'urgence pour dire, moi, je veux mon contrat de travail, je veux mon salaire et je veux mes bulletins de salaire.
Ah non, ils m'ont dit, le prud'homme, ils m'ont dit, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut toujours passer par la conciliation avec le patron. Après, si ça donne rien, on passe au référé. Donc, directement.
Non, ça marche pas comme ça. Non, alors d'accord, on s'est peut-être pas compris sur, vous êtes en train de me parler de ce qui s'appelle une procédure au fond. C'est-à-dire, il y a une conciliation entre les deux parties, donc le patron et le salarié. Après, si ça aboutit, ça s'arrête là. Si ça n'aboutit pas, c'est renvoyé dans ce qui s'appelle un bureau de jugement. C'est-à-dire, pour que ce soit jugé. Mais c'est vrai que les délais sont relativement longs, mais il existe au prud'homme ce qui s'appelle une procédure de référé. La procédure de référé, c'est ce qu'on appelle aussi la procédure de l'urgence et de l'évidence. Ça veut dire, je peux prouver que j'ai travaillé au sein de cette société avec des témoignages XY. Ce que je veux, c'est mon contrat, mes salaires et mes fiches de paye. Donc, je suis surpris, voilà, qu'il vous ait pas plutôt orienté vers ce type de procédure.
C'était le prud'homme de Villeneuve-Saint-Georges. Alors, le 19 juin 2017, donc le patron, il n'était pas présent, donc il était absent, j'étais tout seul. Et du coup, madame la juge, elle m'a donné une date, directement elle a passé l'affaire au jugement.
Mmh.
Et c'était le 2 octobre 2017.
D'accord.
2 octobre 2017, le patron, il était présent avec un avocat.
Ouais.
Et une semaine avant l'audience, il y a un avocat qui m'a appelé, son avocat.
Mmh.
Il m'a présenté comme quoi c'est l'avocat de telle entreprise. Il m'a dit, justement, voilà, moi je m'occupe des affaires vraiment, des affaires de 15 000, 20 000 euros et tout. Là, c'est une petite affaire et tout. Si vous voulez, on va s'arranger, on va vous donner quelque chose. Et après, voilà, donc c'est pas la peine d'aller vraiment loin et tout. On va au jugement, au tribunal, on va dire qu'on s'est concilié et tout. Il m'a proposé 2000 euros. Donc moi, j'ai dit, voilà, donc je vais pas me casser la tête dans le tribunal, payer un avocat, faire un truc et tout. Ils m'ont donné le lendemain.
Ils ont, excusez-moi, ça a coupé. Ils vous ont quoi?
Ils m'ont donné un rendez-vous.
D'accord.
Alors, ils m'ont dit, voilà, donc, pour qu'on fasse un truc, une transaction, mmh, il vous faut un avocat. Et du coup, on va voir avec un autre, avec un de nos confrères, de vous présenter. Et du coup, le jour même, le soir, vers 21h, une dame m'a appelé. Elle s'est présentée comme une avocate. Elle m'a dit, voilà, donc, moi, je suis votre avocate qui va vous assister à la transaction demain à 10h.
Mais on est d'accord, monsieur, c'est a priori une avocate que vous avez jamais vue. Il n'y a pas eu de rendez-vous, vous l'avez pas raconté l'affaire, elle vous a pas demandé de la payer, rien de tout ça.
Jamais. Donc bon. c'était la confrère de l'avocat de,
ouais,
de la pour conclure la transaction, parce qu'ils m'ont dit que on ne pourra pas faire une transaction entre une personne voilà
sans un avocat, oui.
Donc il faut avoir deux avocats.
D'accord. Donc à vous fixer un rendez-vous
le lendemain. Et l'avocate, le lendemain, vers 10h, 11h, elle m'appelle. Elle m'a dit, désolé monsieur, mon fils il est très malade et tout, je pourrais pas venir. Donc voilà.
Ouais.
Et à 16h, l'avocat, il m'appelle. Il m'a dit, monsieur, voilà, c'est annulé le rendez-vous. On va passer au tribunal. Et voilà. Moi, voilà, donc vous m'avez proposé ça et tout. Il m'a dit non, c'est annulé, il faut pas penser à ça. On va pas au tribunal. De toute façon, on va mettre en doute votre version et tout. Et je dis voilà, il m'a intimidé. Donc j'ai senti qu'il m'a intimidé et tout. Il m'avait fait peur qu'en quoi je vais perdre. Ils vont même me demander les frais d'avocat de les payer, de l'adversaire.
Mmh.
Alors, moi, j'étais au tribunal. Son avocat, il était absent, donc il s'est présenté. Après, moi, j'avais pas d'avocat et la juge a ajourné l'affaire sous le prétexte que j'ai pas d'avocat qui m'assiste. Elle m'a dit, mais une fois j'aurai un avocat, on va.
Alors, mais monsieur, c'est pas obligatoire d'avoir un avocat, c'est vous qui l'avez demandé devant la juge.
Moi, j'avais demandé une aide juridictionnelle.
Ah, voilà, mais il faut tout dire. C'est-à-dire que quand on demande une aide juridictionnelle, et ouais, quand on justifie, quelle que soit la nature de l'audience, hein, prud'homme, divorce, peu importe, comme on a un petit papier qui vous est donné par le bureau d'aide juridictionnelle, quand vous présentez ça au magistrat, effectivement, il renvoie l'affaire le temps que l'avocat qui va être désigné, donc, entre en contact avec vous.
Et donc, la juge, elle a ajourné l'affaire, elle m'a dit, mais on ajourne l'affaire, mais quand vous aurez votre avocat, donc il va l'ouvrir et il va présenter, voilà, donc il va vous présenter, il va plaider à votre place.
Ouais.
Et du coup, depuis ce jour-là, donc l'affaire elle est ajournée, depuis le 2 octobre 2017, sachant que j'avais des collègues, il y a plus de 6 ou 7, ils sont en procédure avec ce patron. Déjà, il y a un récemment, il a gagné. Il y a deux autres, trois autres, ils sont au tribunal avec lui.
D'accord, donc il est habitué ce genre de procédure.
Oui, c'est ça. Donc là, il y a un collègue, il a travaillé pendant 7 mois, et quand il a reçu la fiche d'impôt, il a trouvé zéro. Donc il n'était pas déclaré ou je sais pas quoi. Donc voilà. Il avait les fiches de paye, mais sur la déclaration URSSAF, apparemment, il n'était pas déclaré. Donc là, il est avec lui.
Donc, ce qui signifie, monsieur, alors concrètement, on va essayer de résumer, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, pour l'instant, il n'y a aucun avocat qui vous a été désigné, pas encore, au titre de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle, ils m'ont désigné un avocat.
D'accord, donc vous êtes rentré en contact avec lui ou pas?
Alors, j'ai rentré en contact avec lui, mais il m'a demandé une somme vraiment, il a trop exagéré.
Alors, vous avez l'aide juridictionnelle totale ou partielle? C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à la charge de l'État, une partie à votre charge?
Partiel.
Ouais, bah ça c'est voilà, il faut savoir que quand le bureau d'aide juridictionnelle fixe un pourcentage à la charge du client, c'est qu'a priori ils se sont basés sur des documents que vous avez versés, notamment les feuilles d'impôt. Donc si c'est partiel, c'est que vous pourrez pas entre guillemets faire l'impasse sur une partie de ce montant.
Oui, c'est ça. Non,
ouais.
De toute façon, la somme qu'il m'a demandé, j'ai vu que c'était vraiment trop. Et en plus...
C'est pas trop. Alors, je suis pas en train de défendre l'aide juridictionnelle partielle ou le confrère, mais...
C'est calculé en fonction
C'est plafonné, hein, de toute manière. C'est en fonction du pourcentage qui va être à la charge de l'État ou à la charge du particulier. C'est-à-dire, c'est pas le confrère tout seul qui dit, bon, bah il a l'aide juridictionnelle partielle, tiens, je vais fixer ça à tel montant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que... Le confrère a dû vous faire signer une convention d'honoraires, c'est-à-dire il y a un montant qui précise que c'est à l'aide juridictionnelle et qu'il y a un pourcentage pour l'État. Et ce document, il est envoyé au bâtonnier. C'est-à-dire que le bâtonnier va y jeter un œil quand même pour voir si l'avocat n'a pas, entre guillemets, exagéré sur le montant.
Ah d'accord, parce que moi, j'ai annulé, j'ai pas...
Ah bon
j'ai annulé parce qu'il m'a demandé un pourcentage si... Si par exemple on gagne l'affaire et tout, plus les honoraires.
D'accord. Donc il y a plus d'avocat. Enfin, vous avez plus d'avocat.
Je n'ai pas d'avocat, non.
D'accord. Et donc là, vous en êtes où alors? C'est-à-dire, vous comptez faire quoi concrètement?
Ben l'affaire. Est-ce que justement, je suis en train de demander. Est-ce que si je rentre avec ce patron dans une procédure, est-ce que j'ai avec les preuves que j'ai et tout, est-ce que je pourrais le gagner? Donc
non, mais voilà, monsieur, c'est pour ça que j'ai...
C'est assez surpris de la manière dont... Alors, maître Serran, vous en perdez votre micro.
Voilà, je suis
désolé.
Ouais,
voilà, remettez.
Est-ce qu'on m'entend?
Je vois bien que vous êtes perturbé.
Bon. Donc, je disais que j'étais perturbé déjà par la manière dont cette procédure a été engagée, monsieur, à partir du moment où, je vous le redis, où vous pouvez prouver que vous avez bien travaillé chez l'intéressé, et puis vous me dites que vous avez des témoignages X ou Y et des mails et autres. Ouais. Déjà, en soi, selon moi, vous auriez dû engager une procédure de référé. Je suis désolé, je me répète, mais c'est la procédure la plus rapide pour dire, moi, je peux prouver que j'ai travaillé chez ce type-là. Il veut me donner ni contrat, ni salaire, ni fiche de paye. Bon, cette procédure, vous l'avez laissée de côté. Vous avez fait une procédure au fond, mais oui, si... Tous les éléments que vous énoncez, monsieur, les éléments de preuve, ouais, c'est important. C'est-à-dire que lui dit, moi, ce monsieur, je le connais pas, il a jamais travaillé chez moi. Ça va être à vous d'apporter les preuves et les éléments, donc éventuellement les témoignages ou peut-être des documents que vous auriez conservés, d'apporter ces éléments pour dire, mais moi, j'ai bien travaillé au sein de cette société. C'est le patron qui ment. Si vous avez sous le coude des pièces de cette nature, il y a aucune raison que le conseil de prud'homme vous donne pas satisfaction. Puisque vous avez tous les éléments.
Bah c'est le prix d'homme. Moi, je connais pas dans les problèmes. C'était la première fois que je passe.
Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il fallait rester avec l'avocat. Ouais, je suis désolé, mais on peut pas avoir tout et son contraire. Ouais. Je le redis, l'aide juridictionnelle, elle peut être partielle. Elle vous est accordée. Après, vous refusez, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, vous êtes là un peu perdu. Et c'est pas le simple fait qu'on se téléphone qui va pouvoir vous guider jusqu'au bout de la procédure. C'est ça qui est un peu.
Parfois, il y a besoin d'être accompagné parce que c'est complexe.
Et bien sûr. La preuve, je vois bien que depuis le début, vous êtes un peu perdu, ce qui est normal, hein. C'est pas un reproche. Donc, il aurait peut-être fallu quand même, monsieur, éventuellement, discuter du pourcentage avec le confrère. Mais peut-être être assisté quand même, ça me semble a priori indispensable.
Voilà, Mohamed, notez l'adresse mail de Maître Serran.
Qui n'est autre que Maître, pas d'accent circonflexe sur le i, hein, maître.serran, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Voilà, Mohamed, merci pour votre appel. Maître Serran, vous restez avec nous, le chef voilà a fait de la charcuterie halal.
Ben, j'aurais bien aimé, mais j'ai des rendez-vous là au cabinet à 12h30.
Ah ouais?
Bah, préparez-moi un petit sandwich et puis je pars avec.
Vous croyez où, vous?
Bah, je sais pas, restez, à la radio avec des amis, mais bon, donc.
Voilà, vous restez avec nous, on partage. Okay.
Donc, c'est une demi-invitation.
C'est juste pour qu'il y en ait plus pour les autres, puisqu'on va voir où on en est au niveau de la charcuterie halal. Le niveau monte lentement, mais c'est vrai que des progrès ont été faits. Les exploits du chef, c'est dans un instant, ce Beurre FM.
11h midi. C'est tout droit, avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.